Radio Okapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Okapi, la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga condamne les actes d'intolérance politique pendant cette période de la campagne électorale dans la ville de Lubumbashi. En effet, des affiches de certains candidats sont déchirées par les jeunes d'autres partis politiques, nous dira dans quelques instants Jean Gandou. En Ituri, les caucus de parlementaires alertent sur la dégradation de la route nationale numéro 27, notamment sur l'axe Lopajina dans les territoires de Djougou. Conséquence, ce tronçon d'une importance capitale pour la province devient impraticable et bloque plus de 100 véhicules transportant des produits pétroliers et d'autres articles de première nécessité. L'invité de ce journal nous vient de la province du Maniema. Il s'agit du coordonnateur chargé des suivis, évaluation et plaidoyer du projet programme agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales en RDC. Joseph Bobia nous parle du cadre d'échange avec les parties prenantes au projet tenu récemment dans la ville de Kindu. Voilà tout pour le sommaire. Grâce à Mzati Masanzi, je suis à la présentation et Jean-Claude Nsiala Mwanamakengonswalu assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour. Des cas d'intolérance politique sont signalés dans quelques quartiers de la ville de Lubumbashi. Des affiches de certains candidats sont déchirées par les jeunes d'autres partis politiques. Une situation condamnée par le commissaire provincial de la police. Ces derniers mettent en garde tous ceux qui s'adonnent à de telles pratiques. Explication à Lubumbashi, Jean Gandou.
Ces cas sont enregistrés aussi bien à Lubumbashi que dans d'autres villes comme Likasi, Kasumbalesa et autres. Les candidats victimes s'en plaignent. Témoignage de Monique Kabedi, candidate pour la ville de Lubumbashi.
Nous déplorons le fait que nos affiches placées sur différents endroits, on les retrouve déchirées. Alors que nous avions eu à dépenser de l'argent pour avoir ces affiches. Notre mobilisateur a été agressé, on lui a arraché le mégaphone qu'on lui a donné. On lui a arraché les polos.
Cette situation est aussi décriée par le commissaire provincial de la police, comme l'indique le major Charles Esperanto Binluamba, porte-parole de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga.
Il est formellement interdit de se livrer à l'arrachage des effigies, des cortèges des propagandistes s'abstiendront de porter préjudice aux tiers en caillassant leurs véhicules, en détruisant leurs biens, en provoquant la pollution sonore la nuit, en tenant des propos à caractère séparatiste.
Et pour décourager ce genre d'acte, la police est catégorique.
Quiconque se sera rendu coupable des faits ci-haut énumérés sera interpellé et déféré devant la justice pour répondre individuellement de ses actes.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme Redo dit avoir documenté des discours de haine et d'incitation à la violence tenus par certains candidats aux élections législatives dans la ville de Butembo. Dans un communiqué publié hier mercredi, cette organisation de défense des droits de l'homme dénonce également l'utilisation des enfants dans la campagne électorale. Son coordonnateur, Mwindo Asivinyo, appelle les autorités judiciaires à se saisir des cas de discours de haine et d'incitation à la violence. Il est joint par Martial Papimukeba.
Le Redo a déjà documenté certains incidents, c'est notamment la destruction des photos et effigies des candidats dans certains quartiers, les messages et discours de la haine, les photos placées dans des parcelles et murs sans le consentement des propriétaires des maisons, l'utilisation des enfants dans la propagande, c'est notamment les enfants qui distribuent des photos par-ci par-là, la paralysie des activités toute la journée dans les endroits où les candidats organisent des activités politiques, des meetings populaires. Pour que les élections du 20 décembre 2023 se passent dans de bonnes conditions, nous appelons aux candidats de respecter la loi, de ne pas utiliser les affaires dans leur propagande, mais aussi d'éviter les messages de haine et de cesser d'appeler leurs militants à la violence. Nous incitons aussi les services de sécurité, la justice d'être vigilants par rapport au dérapage et de se saisir à cas de nécessité.
Direction la province de la Mongala, où la CENI a organisé hier un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Objectif, explorer les voies et moyens d'organiser des élections crédibles et apaisées le 20 décembre prochain. Paul-Richard Malengela, reportage.
L'objectif de la rencontre, a indiqué le secrétaire exécutif provincial de la CENI Mongala, était de rendre le processus électoral en cours le plus inclusif possible. À cet effet, Norbert Mandima a échangé avec ses interlocuteurs sur les étapes déjà réalisées, entre autres la cartographie, l'identification et enrôlement des électeurs, la révision du fichier électoral, l'inscription des candidats, le repérage des sites et bureaux de vote, le déploiement des matériels ou kits électoraux et j'en passe. Au stade actuel, a ajouté le CEP de la CENI Mongala, son institution s'emploie à la délivrance des duplicateurs des cartes d'électeurs aux requérants. Elle procède aussi à l'affichage des listes électorales provisoires devant le secrétariat exécutif provincial et devant les bureaux d'antenne CENI. Par ailleurs, la CENI Mongala procède, à travers les radios locales et sur les lieux publics, à la sensibilisation sur l'utilisation du DEV, dispositif électronique de vote. Satisfait de l'initiative de la CENI, plusieurs participants, dont les autorités politico-administratives et les acteurs de la société civile, ont déploré notamment la lenteur de la délivrance des cartes duplicata. Vu le temps relativement court qui reste, le chef Norbert Mandima a rassuré que cette opération va s'étendre au chevelet de tous les secteurs de la Mongala. Mbondaka, Porsche Malingela, Radio Okapi.
La société civile de la consolidation de l'unité, de la démocratie et du développement de la RDC en période électorale et post-électorale, c'est le thème d'une table ronde tenue hier mercredi ici à Kinshasa, réunissant une trentaine de représentants des organisations de la société civile. Organisée par l'Union nationale des jeunes acteurs du changement UNAJAC, cette activité avait pour objectif de sensibiliser les acteurs de la société civile sur leur rôle à jouer pendant cette période cruciale des élections afin de consolider la paix et promouvoir la démocratie dans leur communauté. On écoute Jocelyn Lenguissa, président du conseil d'administration de l'UNAJAC, au micro de Radio Capi.
Nous avons voulu expliquer ici aux organisations de la société civile, premièrement, après les élections, nous resterons tous Congolais, peu importe ce qui va se passer. Et deuxièmement, la responsabilité des acteurs de la société civile en cette période électorale et préélectorale pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale, mais aussi de jouer son rôle de chien de garde pendant cette période. Déjà, nous partons vraiment avec les développements de base. La société civile est représentée partout. Nous sommes pratiquement dans toutes les communautés. Ici, il est question d'amener chaque acteur de la société civile d'être assez responsable et d'amener le membre de sa communauté d'être tous les observateurs par rapport à leur vote. Comme personne humaine, chaque personne a une tendance. Mais ici, nous voulons que la société civile joue son rôle. C'est quoi le rôle principal de la société civile? C'est être un contrepoids du pouvoir public, pas être un ennemi. Ici, il est question de défendre les intérêts de la population. Les gens qui sont au pouvoir, c'est parce que nous les avons placés là-bas. Alors, à cette période de campagne, je demanderai à notre population d'être conscient de l'avenir du pays, de voter responsable, mais de ne pas s'arrêter seulement au vote, faire en sorte que leur vote soit vraiment vote. Que la population se dise pendant ça, c'est le travail de la société civile. Non, la population doit accompagner ce processus électoral.
Processus électoral toujours, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain, a tenu un meeting hier à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il était accompagné de Matata Ponyo, Frank Diongo et Seth Kikuni, trois autres candidats à la présidentielle qui ont désisté au profit de ces derniers. S'exprimant devant une foule réunie à la tribune officielle, le candidat numéro 3 affirme que s'il est élu, il rétablira la sécurité dans cette province en proie aux groupes armés. Moïse Katumbi Chapwe promet également d'améliorer la desserte en eau potable et l'électricité pour booster l'économie et le développement de l'Ituri. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Je connais vos souffrances. C'est par ce mot que Moïse Katumbi a commencé son adresse à la population venue depuis 9 heures pour écouter ce programme durant près de 20 minutes. Il a critiqué le bilan du chef de l'État en dénonçant la persistance de l'insécurité dans plusieurs villages, caractérisés par des tueries, incendies de maisons et déplacements massifs de la population, ce qui pousse plusieurs des jeunes au chômage. Le candidat numéro 3 a déploré la dégradation des routes nationales numéro 4, axe Kisangani et 27 qui mènent vers Maragui avec comme conséquence la montée de l'inflation. Qui, selon lui, appauvrit davantage la population. Selon lui, il faut que les problèmes de manque de courant et de l'eau potable auxquels l'Ituri est confronté puissent prendre fin dans cette province. Pour relever tous ces défis, Moïse Katumbi a demandé à ses électeurs de voter pour lui au scrutin du 20 décembre prochain. Il a demandé à ses électeurs de ne quitter les bureaux de vote que lorsque tous les dépouillements des résultats seront effectués. Cela pour éviter, indique-t-il, des éventuelles fraudes. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Capi.
Et puis, poursuite ce jeudi à Kalemie dans le Tanganyika du programme de sensibilisation des jeunes aux droits civiques et électoraux. C'est un projet de la structure dénommée American Space qui est financé par l'ambassade des États-Unis. La coordonnatrice d'American Space à Kalemie revient sur l'importance de cette sensibilisation des jeunes en cette période préélectorale. Huguette Kessa est au micro de Paulin Mounanga.
Notre objectif, c'est la participation massive des jeunes aux élections de décembre 2023. Vu les statistiques des années précédentes, 2006, 2011 et 2018, le taux de participation des jeunes était vraiment faible. Et c'est comme ça, avec l'appui du gouvernement américain via son espace American Space, ils ont voulu quand même nous donner un coup de main pour la réussite des élections de décembre de cette année. En fait, on leur fait voir que aller voter, c'est un droit pour tous les patriotes du pays. Quand même, il y a eu des questions-réponses. On demande aux jeunes pourquoi vous êtes partis vous faire enrôler. Ils veulent juste avoir la carte. Alors nous, on veut enlever cette idée dans la tête des jeunes. On ne s'enrôle pas pour avoir la carte, mais c'est un droit civique que nous devons acheminer jusqu'au bout en allant voter. Et quand ils nous demandent comment savoir que c'est le bon candidat, on lui donne juste certains petits critères de savoir si celui-ci c'est un bon ou un mauvais, mais on n'est pas là pour faire la campagne. Peu importe les candidats, on n'est pas dans la campagne électorale. Nous, on sensibilise les jeunes à aller voter.
Cette autre nouvelle sur Radio Okapi. La République démocratique du Congo dispose des potentialités agricoles qui peuvent nourrir tout le continent africain avec environ 80 millions d'hectares de terres arables. Cette déclaration a été faite mardi à Addis Abeba en Éthiopie par Mamadou Mbalo, le chargé de programme des réformes foncières pour le compte de l'ONU Habitat en RDC, au cours de son exposé à la conférence sur la gouvernance foncière. Pour lui, la RDC, qui importe actuellement même des vivres, doit tout faire pour valoriser son patrimoine foncier pour le bien-être de sa population et être la solution aux problèmes alimentaires en Afrique. Ces propos sont recueillis par Isaac Remoriope.
La RDC, en termes de superficie, c'est le deuxième plus grand pays du continent africain, derrière l'Algérie. Donc plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Et en termes de potentialité agricole, c'est plus de 80 millions d'hectares en termes de terres arables. Imaginez ce que ça peut représenter. Maintenant, si en même temps vous vous mettez sur le terrain des exportations et des importations, vous vous rendez compte que le pays importe plus qu'il n'exporte. Et ça, c'est essentiellement lié au fait que le facteur de production qui est le foncier n'est pas suffisant. Valorisé. Aujourd'hui, presque 75% des importations du pays sont liées à des produits manufacturés. 25% sont liées à des produits alimentaires. Donc, nous considérons que si aujourd'hui le patrimoine foncier de la RDC était suffisamment valorisé, à lui seul, il pourrait être une solution incontournable pour les problèmes alimentaires en Afrique, à plus forte raison pour le pays lui-même. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a matière à pouvoir assainir donc le climat des affaires, à renforcer la sécurité foncière des communautés locales pour qu'elles puissent investir assez suffisamment sur ces terres-là pour pouvoir se nourrir et nourrir aussi les pays voisins et le continent africain dans sa globalité.
Je l'ai dit dans les titres, le caucus des parlementaires de l'Ituri s'est dit consterné par la dégradation de la route nationale numéro 27, notamment sur l'axe Lopajina, dans les territoires de Djougou. Devant la presse hier mercredi à Bounia, cette structure indique qu'il est inacceptable que ces tronçons d'une importance capitale pour la province soient impraticables, ce qui bloque, selon cette structure, plus de 100 véhicules transportant des produits pétroliers et d'autres articles de première nécessité. L'une des conséquences est l'augmentation vertigineuse du prix du carburant. Le caucus appelle les autorités provinciales et les opérateurs économiques à se réunir en urgence pour décanter la situation qui affecte les populations déjà confrontées à l'inflation. L'honorable Jean-Claude Draza, président du caucus des parlementaires de l'Ituri, explique au micro de Martial Kizabiamungu.
La route est à très mauvais état et que les véhicules sont restés embourbés sur la route entre Magui et Bounia. Alors, les bénéficiaires, c'est la population et celui qui a bâti à la fin, c'est toujours la population. Étant donné que les opérateurs économiques sont organisés à travers l'AFEC, l'AFEC est une structure qui vraiment collabore avec le gouvernement, tant au niveau provincial qu'au niveau national. C'est le moment où le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur militaire Luboya Kachama Johnny, devra prendre des dispositions rapidement pour convier les opérateurs économiques d'ouvrir un dialogue. Ça veut dire que à travers cette réunion, il y a la possibilité de trouver une solution. C'est d'abord et au niveau du gouvernement provincial, le plus rapidement possible, faire en sorte que les bourbiers soient dégagés pour que les véhicules qui sont stationnés là puissent d'abord passer, rejoindre la ville de Bounia, afin de libérer les carburants. Même d'autres produits manufacturés, c'est des premières nécessités. Ça veut dire que le problème, il est sérieux.
Sécurité à présent. Au Nord Kivu, des tirs sont entendus ce jeudi dans la cité de Mweso sous occupation des rebelles du M23 depuis hier mercredi. C'est dans la chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Des sources locales sont unanimes que la situation reste tendue dans la zone où les quelques habitants qui n'ont pas fui les combats ne peuvent sortir de leur maison toute cette matinée. Pendant ce temps, la société civile de Masisi déplore la dégradation de la situation humanitaire dans l'ensemble de ces territoires. Le récit de Bernard Nyangi.
Le centre de Mweso est quasiment occupé ce jeudi par les rebelles du M23, confirment plusieurs sources locales. Elles précisent que des groupes armés locaux ont tenté plusieurs fois de le reprendre sans succès dans la journée hier mercredi. Dans la mi-journée de ce jeudi, le combat s'est déroulé vers la sortie ouest de Mweso sur l'axe menant à Kashuga, affirment plusieurs sources. Elles évoquent la poursuite des tirs de sommation qui sont entendus dans la cité de Mweso et qui s'apparentent à une opération de ratissage des rebelles. Toujours à Mweso, une partie des habitants se sont déplacés vers l'hôpital de référence et dans les églises, quelques autres sont dans leur maison pendant que quelques-uns ont quitté la cité en direction de Pinga et Katiro, entre autres. Par ailleurs, nos sources parlent d'une accalmie relative sur les axes Kausa, Kilolirwe, Karenga. Elles déplorent seulement l'augmentation du nombre de déplacés sans assistance humanitaire dans tout le Masisi à la suite de cette escalade dans la partie est du territoire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoit la libération des 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange des 150 prisonniers palestiniens n'interviendra pas avant ce vendredi 24 novembre. Dans la bande de Gaza, ce jeudi, les combats meurtriers se poursuivent. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes selon l'ONU. Le territoire est dévasté et une grave crise humanitaire sévit avec notamment le déplacement de plus d'1,4 million d'habitants de Gaza où l'aide entre au compte-gouttes.
L'invité.
Comme vous le savez, depuis 2021, la Caritas Congo, l'Église du Christ au Congo SCC, la NCA et Caritas Norvège mettent en œuvre le projet Programme Agriculture Durable et Meilleure Protection des Forêts Tropicales en RDC. Il y a peu, ces structures ont organisé à Kindu, dans les Maniema, un cadre d'échange avec les parties prenantes au projet. Joseph Bobia est le coordonnateur chargé des suivis, évaluations et plaidoyers dans le cadre de ce projet. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur Joseph Bobia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui justifie ces cadres d'échange entre les acteurs impliqués dans le cadre du programme Agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales en RDC?
Alors, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés en une journée de concertation entre les acteurs. C'est un cadre multi-acteur pour échanger autour de ce programme et faire des alliances, constituer des alliances avec les autres structures, les autres services des différents ministères qui ont une influence sur l'agriculture, sur la terre et sur les forêts, pour qu'ensemble on réfléchisse sur comment s'appuyer mutuellement pour avancer ces grands programmes agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales dans le Maniema et plus précisément dans le Kailo groupement Balanga. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en une journée de réflexion, d'échange, d'orientation, des conseils et voilà, des recommandations entre les acteurs. Pas seulement les acteurs qui sont engagés dans le cadre de ce programme, mais aussi les autres acteurs qui ont des actions similaires, soit dans les sites ou dans tous les maniements. Voilà.
Quelles sont les résolutions prises par les participants après cette rencontre?
Oui, nous avons retenu trois choses. La première des choses, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été relevés. Il y a par exemple le problème de la malnutrition des communautés locales qui produisent, qui sont de producteurs agricoles, mais qui ont un problème de malnutrition. Nous avons aussi retenu un problème d'évacuation de produits, question des routes. Nous avons retenu un problème de loi et des réformes qui sont en cours d'élaboration ou en train d'être exécutées. Par rapport à ces réformes, il y a un problème en lien avec le droit des communautés locales. Par exemple, pour les réformes, il y a manque de terres. Comment faire en sorte que les communautés qui n'ont pas de terres disposent de terres? Parce qu'on ne peut pas mener une action d'agriculture durable et meilleure protection de forêts tropicales sans disposer de terres. Donc, il faut nécessairement disposer de terres. Et là, par rapport à cet élément, nous visons l'aboutissement de la réforme foncière qui pourrait réattribuer les titres fonciers aux communautés locales aussi pour que celles-ci disposent des terres et en disposant des terres, elles peuvent très bien continuer à mieux travailler dans le cadre de ce programme. Par rapport à l'évacuation de produits, bien sûr, le projet va se terminer en 2025 et peut-être dans les échanges lors de réunions de comités de pilotage, on pourra voir comment trouver des moyens additionnels. Mais toujours est-il que, question des routes, il est toujours question de voir comment on peut renforcer le cantonnage manuel. Donc, les communautés locales elles-mêmes peuvent aussi arriver à dégager les routes pour vraiment évacuer leurs produits.
Et alors, par rapport à la malnutrition?
Par rapport à la malnutrition, on s'est dit, il faut accompagner les communautés locales et aussi pourvoir ces communautés locales avec des petits moyens de transformation des produits agricoles. Peut-être en transformant une partie de leur production, elles arriveraient à consommer, à manger quelque chose qui ferait en sorte qu'elles puissent maintenir leur santé, une santé qui va encore les pousser à mieux produire, produire d'avance.
Là, c'est important que vous meniez des actions de plaidoyer pour le bon avancement de ces programmes.
Voilà, il y a des actions, pour terminer, il y a des actions de plaidoyer, des actions de plaidoyer à mener. C'est toujours par rapport à l'espace, par rapport aux terres. Et là, entre les partenaires, il s'est dégagé la question par rapport à la réserve, une réserve qui existe depuis l'époque coloniale. Et cette réserve est illégalement exploitée. Et la coalition interreligieuse s'est chargée de voir comment mener un plaidoyer de manière à ce que cette réserve soit remise sous un mode de gestion collégiale, ce qui permettrait sans doute aux communautés locales de participer à la gestion de cette réserve et épargner la réserve de toute exploitation illégale. Et ce sont les grandes recommandations qui feront en sorte que ce programme puisse avancer, oui, en bénéficiant aussi des apports des uns et des autres.
Monsieur Joseph Bobia, merci.
Je vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga depuis Kindu. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné par Blaise Shindani Kambala et supervisé par Martin Sebujangwe. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci.